Bonjour les filles et bonjour les garçons. Bienvenue sur le 4-9 en transition sur Radio G, l'émission qui vous parle de votre transition écologique en Anjou. Depuis l'arrivée de la Covid et des différents confinements, on a constaté un boom de 140% des vues de vidéos sur le jardinage. Des ventes de livres, sur la permaculture, la culture, sur balcon ou en bac. Bref, nous sommes beaucoup à avoir découvert le plaisir de la terre, de planter, de semer, de récolter et de cuisiner nos propres fruits et légumes. Dans cette mouvance, et toujours pour avancer dans notre transition écologique, j'aimerais aujourd'hui qu'on sème. Bon, on sème déjà beaucoup, hein, on sème vraiment beaucoup. Mais aussi qu'on sème, du verbe semer, ensemble, aujourd'hui, des graines quoi, pour le futur. La nature a tout prévu, photosynthèse, rejet d'oxygène, production de légumes et enfin semences pour recommencer encore et encore et encore. C'est dans cette optique que j'ai invité Bernard Fournier, fondateur de cette toute jeune entreprise de semences bio et reproductibles, Cornucopia, qui signifie corne d'abondance en latin. Ben voilà, on aura appris un truc en latin aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Cornucopia, donc, est une grainetterie artisanale angevine. Ça donne déjà envie quand même, hein.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine. C'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé.
Dans ce temps passé ensemble, je vais questionner Bernard sur le bio, mais aussi sur l'intérêt de la réalité des graines dites reproductibles. Aujourd'hui, 90% des variétés agricoles traditionnelles ne sont plus cultivées. Et pourquoi ? Après un très long combat, les militants du vivant ont obtenu, par une loi de juin 2020, l'autorisation de la vente de ces graines non inscrites au catalogue officiel pour les jardiniers amateurs et les collectivités. Mais en fait, c'est quoi cette histoire de semences libres et c'est quoi les F1 hybrides ? On est un peu perdu. C'est pourquoi nous allons, dans cette demi-heure, semer quelques graines et voir ce qui pousse. Salut Bernard.
Salut.
Bienvenue sur Radio G et merci à toi de nous accueillir aussi dans ton univers fait de petits sachets de papier craft, de graines à perte de vue et de conseils pour tous les jardiniers qui aient commencé hier ou il y a plus de 20 ans. Pour débuter, est-ce que tu peux nous raconter l'aventure Cornucopia et ton parcours au jardin ?
Déjà, c'est un plaisir de pouvoir venir parler de cette passion. C'est une très jeune aventure parce qu'elle a démarré il y a un an à peine. Ça a démarré en fait... tu vois, dans ton intro, tu parlais de ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire. Donc j'ai fait partie de ces nombreuses personnes qui ont n'ont pas débuté parce que j'avais déjà un potager. Enfin voilà, j'étais quand même déjà bien passionné par ce sujet-là, mais à y aller vraiment un peu plus à fond. Et c'est en commençant à récolter mes propres semences sur mes plants de légumes que j'ai eu un jour un espèce de déclic en me disant j'ai beaucoup trop de semences pourquoi pas les faire partager aux autres. Et puis j'imaginais tout de suite cette petite grainerie artisanale de semences reproductibles.
T'as remarqué, c'est pas facile à dire, grainerie.
C'est clair.
Pourquoi le bio et pourquoi les graines d'ici, d'Anjou ?
Le bio, tout simplement, j'étais consommateur de... Enfin, j'étais, je le suis toujours, hein, j'essaye de plus en plus, consommateur plutôt d'alimentation d'origine biologique. En potager, la semence bio, elle a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que lorsqu'on produit... lorsqu'on cultive une plante pour avoir une semence bio, et bien sûr, il faut la cultiver en bio. Donc ça impose déjà, lorsqu'un acheteur de semences achète sa semence en bio, déjà ça veut dire que la graine qu'il a achetée a été issue d'une culture biologique. Et ensuite, la plante qui va être, la semence qui va être récupérée sur une plante cultivée en bio va donner une plante qui sera beaucoup plus résistante face à les maladies classiques qu'on peut avoir dans un potager, donc tout ce qu'on a comme champignons, le mildiou pour la tomate, l'oïdium pour les courges. Si la graine est issue d'une culture biologique et qu'on la cultive en bio, c'est-à-dire à savoir sans pesticides, sans fongicides, sans insecticides, la plante sera plus résistante. Donc si on a un potager en bio, c'est quand même assez important de se fournir plutôt en semences bio.
Est-ce que ce projet, c'est ta transition écolo à toi ?
Je parlerais plus de besoin de sens en fait, c'est-à-dire que je trouvais ça cohérent en fait de partir sur cette activité par rapport... aux inquiétudes que j'ai par rapport à l'avenir qui sont partagées par de plus en plus de gens et de partir sur cette activité, je trouvais que ça avait du sens par rapport aux questions et aux inquiétudes que j'ai moi et puis que d'autres ont, et je l'ai ressenti aussi avec les gens qui passent chez moi, à qui je papote pour acheter des semences. C'est souvent des gens qui en fait ont pris conscience aussi et qui, qui n'étaient pas forcément branchés potager, qui s'y mettent.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'artisans grainetiers ?
J'ai découvert il n'y a pas longtemps la nuance entre grainetier et semencier.
Ah, explique-nous ça.
Ouais, alors c'est l'explication que m'a donnée cette personne. En tout cas, je la trouvais sympa, même si elle n'est pas vraie. le semencier, quelqu'un qui va vendre les semences qu'il produit lui-même. Et le grainetier, ça va être quelqu'un qui vend les graines, les semences, de producteurs de semences. Un petit peu comme le caviste, en fait. Le caviste, il va pas produire son vin, mais il va faire sa sélection de vin. Il va avoir un magasin dans lequel il va sélectionner son vin. Il va pouvoir parler du vin aux gens, mais c'est pas lui qui l'a produit. Donc le grainetier, ce serait l'équivalent du caviste, et le semencier, l'équivalent du viticulteur. L'autre différence aussi entre le mot semence et graine, la semence serait une graine destinée et récupérée sur une plante pour être semée, et donc retransformée en plante, alors que la graine, il y a des graines qui sont récupérées pour la consommation en direct. Et puis des graines, il y en a même dans certains pays qui en font des jeux de société. Donc la semence serait plutôt la graine destinée à être plantée.
D'accord. Et donc il y en a beaucoup des comme toi ? Des grainetiers ?
Eh bien écoute, on est dans un département très riche à ce niveau-là, le 4-9. Il y a des semenciers, grainetiers assez connus, hein, pour ceux qui sont branchés semences bio-reproductibles. Dans le coin, on a la ferme de Sainte-Marthe, qui rayonne même au niveau national. Dans toute la France, on achète des graines de la ferme de Sainte-Marthe. Et puis Germinance, qui est vraiment tout près d'ici. Hein. Les deux sont dans le Maine-et-Loire. Voilà. Après, il y a d'autres semenciers plus importants, mais qui ne sont pas sur le même type de semences. Je ne m'étalerai pas sur le sujet.
On en parlera plus tard. Bernard, tu es artisan grainetier, mais tu es également musicien. Comme vous le savez tous, la programmation musicale ne m'appartient pas. C'est le choix de notre invité. Bernard, tu as choisi une chanson qui s'appelle Collapse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est une chanson de mon groupe électro, là, qu'on a créé juste avant la crise sanitaire. On a très peu joué, forcément, hein, concert interdit, mais non, ça commence à reprendre, là, ça fait du bien. Et du coup, je me suis dit, mince, je m'autorise l'autopromotion, on n'a pas le droit de concert, de jouer pendant 2 ans. Allez, je vais passer quand même un morceau à Radio G.
J'ai envie de dire, ça aurait été dommage qu'on n'écoute pas ça quand même.
Et puis, Collapse, ça fait partie des choses aussi qui m'ont motivé à donner, à passer la seconde sur ma prise de conscience environnementale, écologique, en prenant connaissance de ce thème de la collapsologie, en écoutant à la radio, en conférence plutôt, Jean Covici, Pablo Servigne, Arthur Keller, et j'en passe.
Comment il s'appelle ce groupe ?
Alors le groupe, c'est Alpha Centauri.
Et on écoute Collapse sur Radio G.
Quelqu'un qui s'intéresse à l'effondrement de notre civilisation.
Dans cette chanson, on sent bien l'urgence de changer avant de s'autodétruire. Le sujet est vaste, mais dans ta vie de tous les jours, quels sont les gestes, les choses qui te semblent importantes à faire pour changer nos comportements?
Ce qu'on appelle les éco-gestes.
T'es venu en vélo aujourd'hui,
ouais,
par exemple.
Je suis venu en vélo, ouais, ouais. Et ben, en effet, oui, moi, j'ai la chance d'être en ville, donc beaucoup de mes déplacements, je les fais en vélo. Bah, le potager, je suis pas loin d'être en autonomie alimentaire sur les fruits et légumes. Donc, y a pas plus écolo que de manger ses propres légumes, parce que c'est vrai que même si on achète à la Biocoop, on va avoir du bio, mais ils peuvent venir de très très loin. Donc le potager, bah, c'est à la maison.
À la source.
Bah, c'est ça, ouais. Je suis beaucoup dans la récup aussi, énormément dans la récup. J'achète quasiment tout d'occasion. C'est-à-dire que mon premier réflexe, quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde d'abord s'il existe en occasion, en deuxième main, même troisième ou quatrième. C'est vraiment en dernier recours que je vais l'acheter neuf. Et puis on n'a que des intérêts en fait à procéder comme ça, parce que le coût va être moins cher. C'est plus vertueux, quoi, d'un point de vue écologique.
Pour les novices de la transition, tu vas nous expliquer c'est quoi la différence entre une graine et une graine reproductible, ou on dit aussi semence paysanne. Alors,
Ouais. Alors déjà, c'est pas simple. En plus, il y a plusieurs termes. Hein, donc. La semence reproductible, la semence paysanne. Alors j'ai aussi un qu'on trouve moins. La troisième, c'est la semence d'héritage.
C'est vrai, t'as raison d'en parler. C'est important.
Ouais, semence d'héritage et semence ancienne aussi. Semence ancienne. Donc, l'héritage ancienne, on commence à peu près déjà avec ces termes-là à comprendre ce que ça peut être. C'est en fait un héritage culturel, un patrimoine culturel qui date de dizaines voire centaines d'années, de variétés donc anciennes. Donc, je pense à la tomate noire de Crimée, par exemple. Alors, j'ai pas la date de sa création, mais c'est une variété qui a été créée parce que ces variétés-là, elles sont pas forcément toutes naturelles. Elles ont pu être à un moment donné créées par des producteurs de semences, hein. Je pense par exemple à la tomate cerise Black Cherry. Elle a un nom anglais parce qu'elle a été créée en Angleterre. Mais toutes ces semences, donc dites reproductibles, anciennes, paysannes, ont plusieurs particularités. La première, c'est d'avoir ce qu'on appelle une stabilité génétique. C'est-à-dire que quand on va la planter, on va retrouver exactement la même variété avec toutes les caractéristiques de la tomate. Par exemple, si on prend l'exemple de la tomate, on récupère des graines de tomate sur la Black Cherry, on va planter ces graines et puis on va récolter des Black Cherry. Donc on a une garantie d'avoir exactement la même chose que ce qu'on a. La F1, c'est celle qu'on va trouver le plus fréquemment en fait dans les magasins de jardinage. Je vais pas donner le nom des marques, je vais pas forcément envie de leur faire de la pub, mais qu'on trouve le plus souvent. La F1, lorsqu'on va la semer, on peut avoir des très beaux fruits. On dit même qu'elle est intéressante d'un point de vue en point de vue des rendements. Mais le gros souci qu'elle va avoir, c'est que si on récupère, par exemple, vous plantez une graine de F1 de tomate Black Cherry, par exemple. Vous récupérez les graines de cette tomate, ce qui est finalement pas compliqué à faire, pour pouvoir les planter l'année suivante. Et le gros souci, c'est que l'année suivante, vous n'aurez pas de la tomate Black Cherry. Parce que cette semence F1 que vous avez achetée, allez, à gamme vert.
Oui, au supermarché du coin aussi. Enfin, voilà, il y en a partout maintenant.
Elle est issue, oui, au supermarché, bien sûr. Ouais. Elle est issue d'une hybridation qui s'est faite, c'est sur 4 saisons différentes, je crois, et du coup qui n'est pas stabilisée génétiquement. C'est-à-dire que l'hybridation, c'est un mélange, mais c'est un mélange de deux tomates. Par exemple, on a une tomate A qui va nous intéresser parce qu'elle a une belle couleur rouge. Elle a un goût pas trop mal, mais par contre, elle a le souci d'être trop fragile pour le transport. Et bah du coup, on va l'hybrider avec une tomate moins intéressante d'un point de vue gustatif, moins intéressante au niveau de la couleur, mais par contre qui va avoir beaucoup d'intérêt en termes de transport, c'est-à-dire qui va moins s'imbimer et qui va être transportable beaucoup plus facilement, ce qui est super intéressant, ce critère de transport, pour la faire venir d'Espagne ou je ne sais où, il y a des tomates qui viennent de plus loin. Donc du coup, l'intérêt, c'est qu'on va avoir un mélange des deux, quoi. Donc la transportabilité de cette tomate, plus ses caractères esthétiques intéressants pour le consommateur, qui va être très intéressé par sa belle couleur, sa belle forme, et puis éventuellement le gustatif. Mais ça, c'est pas dans la priorité des gens qui vendent des tomates de façon, on va dire, un peu malhonnête. Parce que le consommateur goûte pas forcément la tomate dans le supermarché. Donc le critère, ça va plutôt être le transport et puis l'apparence physique, quoi.
Oui, j'ai lu il y a pas très longtemps que si les gens étaient très très attirés dans les supermarchés par les tomates grappes, C'est parce que bah, c'est joli d'avoir la grappe verte, etc. Tout ça, forcément. Mais surtout, en fait, il y a une odeur qui est particulièrement forte de la tomate, qui est en fait pas l'odeur de la tomate, mais l'odeur de la tige. Et donc, en tomate grappe, bah, les gens se disent « Oh là là, elle va être forcément bonne, puisqu'elle sent très fort la tomate. » En réalité, c'est la tige qui sent.
Carrément. Bah oui, oui. Ça, je pense que c'est pas fait de façon innocente. Hein. Il y a un calcul hein, à ce niveau-là. Quoi. On parlait, oui, de la F1. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de la F1, le gros souci, c'est que si vous voulez récupérer vos graines, d'une année sur l'autre, ça marche dans le sens où vous n'allez pas avoir une graine stérile, c'est-à-dire qu'elle va quand même vous donner un pied de tomate, hein, qui peut même être vigoureux, mais vous n'aurez pas, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de la tomate Black Cherry, vous n'aurez pas de tomate Black Cherry, vous pourrez avoir quelque chose vraiment complètement différent, quoi. Et ça ne sera pas une variété référencée, connue, quoi. Ça sera un hybride inconnu qui peut-être avoir un intérêt. Hein. On n'aura pas forcément la variété souhaitée. Un petit truc à rajouter aussi, ce qui pose quand même aussi un gros souci, c'est que tous les professionnels de l'agriculture, maraîchers bio, cultivateurs de blé, etc., du coup, ne peuvent pas, d'une année sur l'autre, récupérer leurs semences. Ils sont obligés de les racheter tous les ans à des gros semenciers privés.
Il y en a cinq. Les cinq plus gros sont... Ouais. Avec une histoire de catalogue officiel.
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc en fait, aujourd'hui, un agriculteur, s'il veut faire pousser des tomates ou autre chose, il est obligé de choisir ses graines, ses semences, dans ce catalogue officiel.
Ah bah oui, s'il veut bosser en F1.
Les fameuses... Les lobbies... Les lobbies qui contrôlent le vivant, en l'occurrence qui contrôlent ces graines. Certes, donc on n'en a pas parlé, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de le côté OGM, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces entreprises qui contrôlent ces semences, elles ont un intérêt particulier à faire en sorte qu'une graine ne puisse pas, entre guillemets, être vraiment réutilisée l'année suivante. D'une part, pour que les agriculteurs en rachètent. C'est également le cas pour le jardinier lambda, qui du coup va racheter des graines l'année suivante. Mais en plus, parce que ces entreprises-là, c'est pas leur fonds de commerce au départ, la graine. Leur fonds de commerce, c'est surtout les produits qui vont avec, qui servent à faire pousser la plante. C'est de la pétrochimie.
Oui, alors effectivement, il y a un gros, gros intérêt financier, oui, à... C'est une aubaine incroyable pour en fait de pouvoir revendre tous les ans les semences. Après, l'intention de départ de la F1 est pas forcément mauvaise. Je m'y suis pas mal penché là, ces derniers temps. La F1, c'est arrivé après-guerre, c'est-à-dire qu'on avait besoin vraiment de nourrir tout le monde et d'avoir des gros rendements. Donc c'est venu vraiment avec la logique après-guerre de la logique d'industrialisation de l'agriculture. La F1 permet d'avoir des rendements plus importants et aussi que ça soit mécanisable. C'est-à-dire que l'industrialisation, c'est aussi la mécanisation, hein, donc avec le tracteur, etc. Et l'avantage, par exemple, du maïs F1, c'est que tous les pieds vont être à la même hauteur. Donc ça va être vachement plus facile à récolter. Donc ça, l'autre intérêt aussi de la F1. Au départ, l'intention n'était pas forcément mauvaise, mais par contre, effectivement, la conséquence de ça, c'est qu'on est devenu dépendant de groupes privés par rapport à ces semences, quoi. Et puis ce catalogue officiel qui est une propriété intellectuelle et du coup le commun l'intérêt enfin le groupe n'a pas la propriété de ces semences, quoi.
C'est un petit peu ce sur quoi les militants du vivant se battent aussi, hein, sur la propriété du vivant. Ça devrait pas être possible, devrait pas y avoir un lobby pour ça. En l'occurrence, c'est comme si on disait, tiens, bah, je vais être propriétaire des nuages qui passent au-dessus d'Angers, et donc si vous voulez un petit peu d'eau, il faudra un peu d'eau sur les champs, il va falloir me payer parce que je ferai pleuvoir ou pas. C'est pas possible en soi.
Complètement. Mais, philosophiquement, moralement, c'est carrément condamnable. D'où le combat de je pense à Cocopelli, hein, qui est un peu fer de lance, hein, sur ce combat, Semence Cocopelli, qui a beaucoup milité et qui continue à militer là-dessus, de promouvoir malgré tout, hein, malgré l'interdiction qu'il y a eu à un moment donné, de promouvoir la semence paysanne qui appartient à tous, quoi, sur lequel il n'y a pas de propriété privée. Ils se sont même mis hors la loi à plusieurs reprises, hein, ils ont été en procès, ce qu'on appelle de la désobéissance civile, hein, ils ont assumé leur infraction aux yeux de la loi pour défendre une semence qui appartient à tout le monde et pas à des semenciers privés.
Tout à l'heure, tu parlais de l'exemple de la tomate On a marié deux graines à un moment donné pour avoir une variété très très rouge parce que c'est très vendable, et une variété qui dont la chair est très ferme parce que le transport va être beaucoup plus facile. Ça, c'est ce qu'on appelle le F1, les variétés hybrides aujourd'hui, où on va promouvoir un certain nombre de tomates. Et du coup, sont exclus du fameux catalogue officiel un certain nombre de variétés anciennes de tomates qui sont d'autres couleurs, qui ont d'autres apports aussi, que ce soit gustatif ou même en vitamines, etc. Enfin, c'est différent. Et en fait, on perd aussi au fur et à mesure énormément de goût, d'histoire. Il y a aussi une histoire de biodiversité, hein, et d'intérêt, de l'histoire génétique de la graine et de la plante. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça?
Ah bah c'est complètement, ouais, c'est bien que tu en parles de ça, parce que c'est une uniformisation en fait de la diversité qui est gigantesque. En fait, on se rend pas compte, parce que c'est vrai que quand on va au supermarché, même au marché, on va découvrir 4, 5, 6 maximum variétés de tomates. Mais en fait, quand on regarde, si on va sur le site de Germinance ou Ferme de Sainte-Marthe ou Cocopélie, je vais peut-être me planter dans le chiffre, mais des tomates, il y en a peut-être plus de 300, 350.
Oui, c'est ça.
Donc effectivement, on s'interdit vraiment avec la F1 toute cette diversité de ces goûts différents. Et c'est ça qui est super dans la semence reproductible, c'est redécouvrir tout ce qu'on n'a jamais connu, parce que notre génération, en fait, on a été nourri avec de la tomate rouge, ronde, de base, mais il y en a des jaunes, des noirs, des zébrés.
J'en ai fait pousser des roses, moi, cette année.
Les roses, la rose de Berne, elle est super bonne, quoi. On la trouve pas, celle-là, ouais. La rose de Berne.
Mais tu vois, il y a quelques années, je bossais dans un quartier ici sur Angers, et j'ai amené des plants que j'avais fait pousser de mes semences. Et c'était drôle parce que les gens, en fait, je leur avais amené de la green zebra, donc une tomate verte. Et en fait, les gens, ils les consommaient pas parce qu'ils attendaient qu'elle devienne rouge.
Ah. Ce qui montre bien qu'on a perdu en fait tout ça, et qu'on a besoin de vraiment redécouvrir le plus rapidement possible toute cette belle diversité.
Bon, prenons deux minutes pour y réfléchir, avec une pause musicale certifiée bio et libre, avec un morceau du nom de Lapin Cosmique. Ouh, ça fait déjà rêver. Un sachet de salade, c'est pour changer des tomates un petit peu, parce que et que d'une année sur l'autre je récolte et je fais repousser mes graines dans mon jardin avec son écosystème à lui, qui est différent de celui de mon voisin. Qu'est-ce qui se passe?
La plante a une particularité super intéressante pour le jardinier, c'est que elle s'adapte d'une génération à l'autre très rapidement. L'être humain, le mammifère, On avait des poils au début parce qu'on n'avait pas d'habits. On a mis pas mal, c'est ce qu'on appelle l'évolution. On a mis pas mal de temps à perdre nos poils parce qu'on a commencé à s'habiller et que le corps humain s'est adapté. La plante va le faire très rapidement d'une génération à l'autre. Donc lorsqu'on récupère ses propres semences qui ont poussé, enfin les semences de la plante qui a poussé dans notre terrain, avec notre sol, comment est notre sol, l'exposition, notre climat. Et ben la génération d'après, si vous récupérez vos semences, ben elle va tenir compte de ce micro-terroir qui appartient simplement à votre jardin. Et de génération en génération, elle va de plus en plus s'adapter à votre sol, à votre exposition, etc. Donc vous allez gagner d'année en année sur la résistance de votre plante, sur des conditions qui pourront être difficiles chez vous. Si vous êtes en montagne et vous avez froid, et ben de génération en génération, votre plante va s'adapter au froid. Et puis voilà, sur tous les autres critères, de la même manière.
Comme l'hygrométrie, par exemple, avec l'année qu'on a eue cette année, enfin, qui était particulière en pluie.
Bah oui, c'est-à-dire que la tomate, là, par chez nous, qui a pris cher, pas que par chez nous, d'ailleurs, cette année, un peu partout, qui a pris cher pas mal avec le mildiou. Si vous récupérez, si vous avez réussi à récupérer des semences de tomates cette année, a priori, l'année prochaine, dans son code génétique, elle aura dans son ADN, un petit gène qui dira oulala, j'ai pris cher avec la pluie l'année dernière, cette année je vais faire attention.
Je suis prête, j'ai mon imperméable.
Ouais, ça, ouais. Après ça préserve pas complètement, mais ça la renforce, ouais.
Donc c'est quand même super intéressant.
Ah bah oui, complètement, ouais.
Bon, je crois qu'on en sait beaucoup plus maintenant, Bernard. On sait qu'il existe plusieurs semenciers libres et bio à qui on peut acheter ces semences reproductibles. Mais qu'en est-il de l'Anjou et de Cornucopia ? On les achète où, tes graines ? Pour notre potager d'hiver ou pour préparer l'été prochain ?
Eh bien, je suis sur Angers, pas centre-ville, quartier Justice. Donc, il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a un site internet en allant sur un moteur de recherche bien connu dont je ne citerai pas le nom, ou un autre. C'est vous qui choisissez votre moteur de recherche. Vous tapez Cornucopia semences Angers, vous allez tomber dessus. Sinon, c'est www.cornucopia-bio.com. Voilà. Donc après, à partir de ça, vous avez déjà la possibilité de découvrir toute la gamme de variétés que je propose. Donc il n'y a pas un choix gigantesque pour le moment, parce que c'est vrai que je démarre, mais on va dire qu'il y a tous les classiques, et puis il y a déjà de quoi faire. Donc vous avez deux possibilités, soit commander, je fais de la vente par correspondance, je peux faire un envoi, parce que l'avantage des semences, c'est que ça s'envoie plutôt facilement pour pas trop cher. Et puis sinon, passer directement, voilà, j'ai mon atelier de conditionnement à domicile, donc vous pouvez passer directement à domicile, vous découvrirez l'adresse sur le site internet. Et puis bah, c'est un moment sympa d'échange autour du potager. Moi, j'aime bien recevoir les gens parce que souvent c'est des passionnés ou des gens qui découvrent, donc ont besoin d'infos aussi. Donc c'est l'occasion de donner 2-3 petits tuyaux, voilà, de ce que je sais, parce que je reste humble, hein. Moi, je suis pas non plus un expert, mais voilà, depuis quelques années, c'est vrai que à force de pratiquer, on apprend quand même des choses. Donc pour un débutant, j'ai toujours des petits conseils à fournir. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir chercher vos semences directement chez Cornucopia.
Merci à toi, Bernard, pour toutes ces informations qui nous laissent avec une envie de liberté et de reproductivité, bref, de vivant, et surtout de manger des produits d'ici, qui ont grandi ici ou qui vont grandir ici. J'espère que vous en avez assez appris pour avancer dans votre transition et pour penser votre potager. Et comme le dit le proverbe mexicain, ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site radio-g.fr et nous suivre sur le Facebook de l'émission, le 4-9 en transition. Très belle journée à tous, profitez bien de vos jardins, parcs ou balcons, et à très bientôt sur Radio G.
Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes, dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole.